Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org, nous recevons Gilles Houdouin. Gilles Houdouin est écrivain, il va nous parler de lui, de sa vie, de sa Bretagne à lui, et puis de ses ouvrages et de sa manière d'écrire. Alors, Gilles Houdouin, qui êtes-vous ?
Je suis un nouveau retraité, je ne veux pas dire jeune retraité, parce que ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai eu plusieurs vies. J'ai d'abord été ouvrier pendant une quinzaine d'années dans l'industrie chimique au Havre, où j'ai passé quasiment toute ma vie. Puis ensuite, quand l'entreprise a fermé, j'ai repris des études pendant assez longtemps et je suis devenu ensuite professeur d'informatique à l'Université de Rouen.
Et alors, ça demande quand même une grande formation pour devenir professeur d'université ?
J'étais pas professeur d'université, hein, j'étais professeur à l'université, c'est-à-dire que j'avais le statut de professeur du secondaire, mais embauché par l'université. Bon, cela dit, effectivement, ma reprise d'études a duré 6 ans.
On appelle ça des prags, si je comprends bien, c'est pas ça ?
Oui, c'est ça, des prags, et les prags, c'est pour les agrégés, les PRCE, c'est pour les certifiés. Donc moi, j'étais PRCE.
Et ça doit être très enthousiasmant quand même de former comme ça, de participer à la formation d'étudiants.
Tout à fait. Au début, quand j'ai repris mes études, j'étais reparti en fait pour me dire je vais à nouveau retourner dans l'industrie, etc., comme ingénieur. Et comme j'ai commencé à donner des cours pendant ma reprise d'études, là j'ai eu le déclic, je me suis dit mais c'est vraiment passionnant de faire partager ces connaissances, surtout à des étudiants. En faculté, on n'a pas le problème de tenir des élèves, etc. Donc, ça passe très bien. Les étudiants sont en général très réceptifs et reconnaissants de ce qu'on leur apporte.
Et puis aussi, ils apprennent la manière de travailler un peu tout seul.
Aussi, oui, mais beaucoup. Cela dit, à ce niveau-là, il y a de moins en moins de moyens aussi dans les universités pour qu'ils travaillent tout seuls. Donc, on est aussi là pour les aider.
D'un autre côté, c'est un travail important, mais aussi qui demande beaucoup de temps et beaucoup de recherche, parce que quand on doit enseigner à des étudiants à ce niveau-là, les cours, comme on dit, ou les conférences, ça se prépare.
Ah, ça se prépare, bah oui. On dit toujours, mais c'est très vrai, que pour préparer une heure de cours, il faut compter 3 heures... 3 heures de recherche et de préparation en amont.
Ah oui, absolument.
Il faut à tout prix avoir quelque chose à proposer, parce que des fois, en fait, on pense passer du temps sur quelque chose et finalement, ça va très vite, parce que c'est très vite acquis, donc il faut pouvoir enchaîner. Donc. Ça demande beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. À un moment donné, donc vous n'étiez pas en Bretagne, et la Bretagne pour vous, alors ?
Alors la Bretagne, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord... D'abord un rêve depuis très très longtemps, depuis la première fois où j'y ai mis les pieds, on va dire quand j'avais 20 ans, je me suis dit j'y reviendrai et j'y passerai ma retraite si possible. Et il se trouve que ma compagne, avec qui je suis depuis 15 ans, avant même qu'on se connaisse, avait le même rêve. Et donc on a profité d'être en retraite pour se retrouver en Bretagne.
Et à quel endroit de la Bretagne êtes-vous, sans indiscrétion ?
Dans le sud de Morbihan, à Férel, qui est un très, très, très sympathique village.
Là, vous approchez presque de la Loire-Atlantique, là, Férel.
Presque de la Loire-Atlantique. Alors, il y a toujours le vieux débat, est-ce que la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne ou pas ?
Ouais.
Je n'entrerai pas dans cette question.
Vous êtes sur Bretagne 5, il y a un ami auditeur, vous êtes aussi sur Bretagne 5, qui veut dire beaucoup. C'est la Bretagne à 5 départements.
Oui.
C'est la Bretagne Guenadu. Et je rappelle souvent, quand on a le drapeau breton Guenadu, c'est la Bretagne. Par contre, quand on parle de région Bretagne, bien sûr, ils ont leur propre logo, et c'est ce qu'on appelle le B4, et la région Bretagne, c'est différent. Mais la Bretagne, au sens où on l'entend généralement, C'est effectivement le Guenadus. C'est bien les drapeaux Guenadus qu'on voit partout sur les stades de foot, chez les spectateurs et un peu partout dans le monde. En tout cas, votre Bretagne, c'est Ferrel, mais c'est aussi peut-être autre chose.
C'est autre chose parce que c'est aussi, ce n'est pas qu'un rêve, c'est aussi le pays d'une partie de mes ancêtres, puisque l'un d'eux, qui venait d'un petit village près d'Angers, est arrivé à Brest au début du 19e siècle, pardon, pour s'engager dans la marine. Bon, sans doute qu'il n'avait plus assez de travail du côté d'Angers, et il s'est engagé dans la marine impériale et il a fait souche à Brest pendant 3 générations. Et ensuite, bon, à la fin du 19e siècle, là, il commençait à manquer de travail aussi dans les arsenaux de Brest. Et donc, ses descendants ont repris leurs valises pour venir au Havre, qui lui était un port en plein développement. Il faut savoir que le Havre est la 3e ville, je crois, non bretonne, en termes de bretons qui y habitent. Donc, après New York et Paris.
Le Havre, c'était le lieu de départ, le port de départ, pour les gens qui partaient, comme on disait, en Amérique. Et pour, je pense que les vapeurs, comme on disait, les grands bateaux à vapeur, partaient du Havre.
Oui, ils partaient du Havre, tout à fait. Et au Havre, il y a un quartier qui est très connu pour être le quartier des Bretons. Bon, évidemment, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mixité, mais... à la fin du 19e siècle, c'était le quartier des Bretons, c'était le quartier Saint-François. Et d'ailleurs, c'est encore dans ce quartier que tous les ans, il y a la festive, la Saint-Yves qui est fêtée, et il y a un bagade au Havre qui s'appelle Avelvor et qui est un très bon bagade qui date d'il y a très longtemps.
De votre travail de professeur, enfin d'enseignant en université, à l'écriture, on peut penser que de la technique à l'écriture, il y a un pas à franchir. Et pourtant, je pense que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient dans les deux directions, c'est-à-dire la littérature, après le travail d'enseignant.
Oui, ben, disons que écrire, ça m'a toujours titillé depuis que je suis gamin. Comme beaucoup, quand j'avais 9-10 ans, j'écrivais dans mes cahiers. Et l'histoire aussi m'a beaucoup passionné depuis très longtemps. Et je ne sais pas si vous savez, quand on était dans ma génération, on avait une revue qui s'appelait Tout l'univers. Et je passais mes journées de congé à retaper les articles d'histoire dans Tout l'univers sur la petite machine à écrire qu'on m'avait offerte.
Formidable revue d'ailleurs.
Formidable revue, oui, tout à fait. Je ne sais pas si elle existe toujours, je ne suis pas sûr.
En tout cas, c'était la référence pour ceux qui étaient du voyage, et pas seulement du voyage, mais aussi de l'histoire et de tout ce qui s'était passé, en fait, avec des images formidables, des photos, et puis des textes tout à fait opportuns, tout à fait travaillés.
Et ce qui m'a fait aller dans la technique, ce n'est pas mes passions de l'époque, c'est le fait que bon, quand on est enfant, on respecte ses parents, ce qui est tout à fait logique. Et pour mon père, être professeur d'histoire ou professeur de français, c'était pas possible parce qu'il n'y aurait pas de travail. Et donc il fallait à tout prix aller dans des secteurs porteurs de l'industrie ou de la technique. Et donc ils m'ont poussé à faire des études scientifiques. Bon, je n'ai jamais regretté, a priori. Je me suis dit, à un moment donné, si j'avais fait le métier de mes passions, peut-être que j'aurais été déçu à un moment donné, que mes passions auraient périclité un petit peu. Donc,
Les études scientifiques et mathématiques, ça reste encore le rêve de beaucoup de parents, malgré tout.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et alors, il reste à écrire. Et votre premier livre, alors ?
Mon premier livre, c'était un polar historique. Alors, j'aime pas trop la définition parce que ça correspond pas tout à fait. C'est plutôt un roman historique, pardon, dans lequel il y a une enquête plus qu'un polar. Disons que pour moi, le maître du roman historique, celui qui m'a mis une claque quand je l'ai lu, c'est Robert Merle avec Fortune de France. Donc c'est un peu ça que j'avais voulu, en toute modestie, recréer avec mon premier roman qui s'appelle au nom de la mère et du fils, qui se passe en Anjou au début du siècle de Louis XIII.
Un petit mot sur le contenu de ce roman.
Alors c'est, je ne veux pas trop en dévoiler non plus.
Non, bien sûr.
Disons que ça se passe en 1620, près d'Angers. Donc en fait, c'est mes trois premiers romans, qui sont des polars historiques, on va dire ça comme ça, mettent aussi en scène mes ancêtres, qui étaient notaires ou sergents royaux, donc qui avaient des professions qui se prêtent bien à une mise en scène historique. Et je les ai restitués dans leur métier, à l'endroit où ils habitaient, etc., avec leur famille. Et bon, un sergent royal, donc qui est un de mes ancêtres, vit des aventures en 1620. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose de très important pour l'avenir du royaume à cet endroit-là et à cette époque-là.
Des aventures qui font rêver et à découvrir dans ce livre dont vous allez nous rappeler le titre.
Au nom de la mère et du fils.
Au nom de la mère et du fils.
Voilà, pour ne pas en dire de trop, mais en dire un petit peu quand même, la mère et le fils, c'est Marie de Médicis et son fils Louis XIII qui se sont affrontés pendant longtemps pour savoir qui était le maître dans leur royaume.
Des grands, grands personnages, en fait, de l'histoire. Quand on parle Marie Médicis, on parle aujourd'hui féminisme, sans doute à juste titre, mais là, c'était vraiment une femme de pouvoir, une femme qui savait ce qu'elle voulait, et forcément, avec Louis XIII, eh ben oui, de quoi raconter cette histoire que j'invite chacun à découvrir dans votre ouvrage. La publication de cet ouvrage n'a pas été trop difficile ?
J'ai essayé dans un premier temps de taper à la porte des grands éditeurs, comme beaucoup, hein, on y croit beaucoup. Donc j'ai essayé les éditeurs spécialisés dans le roman historique, Lattès, je ne me rappelle plus trop les noms, mais je sais que Lattès était un spécialiste. Bon, je n'ai eu aucune réponse, donc je me suis dit plutôt que de... D'insister, je vais faire comme beaucoup et je me suis auto-édité.
Oui.
Donc du coup, ça enlève aussi la pression parce que aller chez un grand éditeur, ça veut dire aussi avoir un contrat, devoir respecter des délais, voir éventuellement son livre un peu modifié, fois à la marge, des fois complètement.
Et attendre longtemps.
Et attendre longtemps, oui.
Et attendre longtemps. Et ensuite, alors, vous avez continué à écrire. Les ouvrages suivants.
Alors, les ouvrages suivants, ben, c'est les deux suivants, donc c'est dans l'ordre chronologique, hein, c'est-à-dire, il y en a un, c'est en 1621. Donc, ça raconte quelque chose qui s'est passé pendant les guerres entre les protestants et les catholiques, parce que on entend souvent parler des guerres de religion, mais elles ont duré très longtemps. Hein. Bien après la fin officielle de la guerre de religion, bien après l'édit de Nantes. Et donc, à Sorge, qui était le temple d'Angers, il s'est passé des choses. Voilà, donc ce livre raconte un peu ces aventures-là, toujours avec mon sergent royal.
Et les guerres de religion, comme beaucoup de guerres, il y a la guerre telle que retient l'histoire, mais il y a aussi la guerre qui se passe un peu partout. Et c'est souvent des coups de main, enfin, ça se passe au niveau local, des accrochages, comme on dit, mais souvent beaucoup de morts.
Oui, c'est ça, c'est des accrochages, parce que pas toujours d'ailleurs entre armées ou bandes armées, mais soit entre la population elle-même, hein, qui... des catholiques qui allaient agresser des protestants à l'entrée du temple, ou vice-versa, parce que personne n'était blanc dans l'histoire. Et il faut savoir aussi que Saumur était une des places de sûreté que les protestants avaient acquis sous Henri IV, et donc la présence de beaucoup de protestants à Saumur créait des tensions, y compris au plus haut niveau du royaume.
Ça, c'est un élément important à publier, parce que on a en tête bien sûr les grands événements historiques et de façon tout à fait justifiée, on oublie parfois les ravages que ça fait au niveau des populations, toutes ces guerres.
Oui, oui.
Donc celui-là et l'autre.
Et donc le troisième et pour l'instant dernier, mais j'en ai un autre sur le feu. Donc le dernier, c'est ça raconte la contrebande de sel sur la Loire, puisque la Loire était évidemment un grand vecteur de contrebande, de sel de Guérande qui remontait la Loire jusqu'au canal de Briare vers Paris ou encore plus en amont. Et il faut savoir que bon, le sel qui était non taxé en Bretagne, dès qu'il rentrait à un grand en Anjou, il prenait 40 fois sa valeur. Donc la contrebande était très 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 répandue puisqu'elle faisait gagner beaucoup d'argent.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sel parce que c'est, comment dire, c'est un fait marquant quand même de l'histoire en général, que ce sel de la Loire, on avait besoin pour les aliments, pour la conservation, mais aussi avoir du sel, ça voulait dire être suffisamment riche pour en acheter.
Tout à fait, oui. Et il y avait aussi des différentes sortes de sel. Par exemple, il y avait des bateaux qui remontaient, on appelait ça les gabarres à l'époque, qui remontaient la Loire avec des poissons qui étaient salés sur place, et les contrebandiers mettaient beaucoup plus de sel que nécessaire sur le poisson, en prétextant que ça le conservait mieux, et les gableux, qu'on appelait ensuite les gablous, ou les douaniers en fait, prenaient la peine de gratter tous les poissons du sel excédentaire pour le mettre dans le fleuve, quand ils estimaient que c'était de la contrebande. Donc c'était vraiment très 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 réglementé. Et ouais. Il y avait des gens pauvres qui se contentaient de ce sel-là récupéré sur les poissons pour tout le sel dans toute ma nourriture. Donc,
Et le sel en Bretagne était distribué à partir de charrettes, de convois de charrettes qui venaient livrer du sel assez loin en Bretagne, jusque sur les côtes du nord Bretagne, et repartaient ensuite avec d'autres marchandises. Et quelque chose d'intéressant que vous avez dit, comme le reste d'ailleurs, mais ça en particulier, c'est que en Bretagne, le sel n'était pas taxé.
Oui, tout à fait, oui. On appelait ça le sel franc.
Le sel franc. Et donc sur toute la Bretagne, là.
Sur toute la Bretagne, oui. Donc les producteurs avaient le droit de vendre leur sel sans taxe.
Comment est produit le sel, en fait?
Le sel des marais salants, c'est la mer qu'on fait rentrer dans les terres et le sel se produit avec l'évaporation de l'eau dans les bassins.
Et tout ça, vous le racontez dans ce livre-là?
Je ne raconte pas la production de sel, hein. je raconte une partie de la contrebande, parce qu'il faut aussi savoir que la contrebande rapportait de l'argent aux grands du royaume, hein. C'était pas les petits paysans qui s'occupaient qui étaient les victimes de la contrebande, mais ceux qui l'organisaient sur une grande échelle, c'était les grands du royaume, hein. Et donc c'est là aussi c'est lié Monsieur, vous savez, le frère du roi, était toujours en désaccord avec son frère et il a mené des cabales contre lui et il fallait les financer. Donc il les a aussi financés grâce à l'argent de la contrebande.
Le sel, donc, qui allait jusqu'à la cour, en fait, de la cour de France, qui était déjà à Versailles ou bien qui était dans le Val-de-Loire ?
Non, elle n'était pas à Versailles à l'époque. Versailles, sous Louis XIII, n'existait pas. C'était un pavillon de chasse. C'était pas encore le grand château que l'on connaît. Donc la cour était encore au Louvre, et elle avait ses châteaux d'été, on va dire, sur la Loire.
Le sel de Loire, de Guérande, reste un produit quand même de très, très particulier, avec une appellation d'origine et autres. Et à l'époque, c'était pas produit dans d'autres régions de France, c'était uniquement sous la Loire.
Non, il y avait d'autres régions de France. Par exemple, en Béarn, vous avez un village qui s'appelle Salis de Béarn, qui donc, le mot Salis vient de sel, où il y avait aussi du sel de produit, mais c'était différent. C'était un sel qui était extrait de la terre. C'était un sel de mine, en fait.
Dans vos ouvrages, les histoires, au bon sens du terme, que vous racontez, que vous imaginez, ont pour cadre cette région-là, et puis des personnages qui ont vécu ces histoires dans ces cadres-là.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Alors, vous avez parlé du livre avec des ancêtres ou des personnages célèbres, aussi autour du sel de Guérande. Et vous avez peut-être d'autres idées pour la suite.
Celui que je suis en train d'écrire se passera toujours en Anjou, mais là, plus spécifiquement à Saumur, puisqu'il parle de l'arrivée du roi qui est venu prier un jour à Saumur avant d'aller faire le siège de La Rochelle, justement contre les protestants. Et donc là, j'ai inventé une histoire qui va se passer dans ce cadre-là.
Ah oui, avant de faire la guerre, il faisait quelques prières à son dieu.
Voilà, pour avoir la victoire.
Avoir la victoire.
Évidemment, l'ennemi faisait aussi une prière. On ne sait pas trop de quel côté penchait Dieu, mais on peut espérer que pour eux, il penchait toujours des bons côtés.
Oui, oui. Enfin, je reviens un peu à l'édition et les autres ouvrages. Vous avez commencé en auto-édition, mais c'est le cas de beaucoup de gens, et puis qui s'en trouvent très bien d'ailleurs parfois. Et maintenant, vos ouvrages sont édités de quelle manière ?
Alors, je suis auto-édité donc chez Bookelist, qui est une entreprise française qui met à disposition des auteurs un outil pour pouvoir éditer le livre. Alors, évidemment, tout doit être fait par soi-même, la mise en page, etc. etc. Mais c'est aussi un travail qui m'intéresse beaucoup. Et il est imprimé en France, donc ça n'a que des avantages, on va dire. Et je suis aussi, bon, il faut bien le dire, hein, même si ça ne plaît pas toujours à tout le monde, je suis aussi auto-édité chez Amazon, qui reste quand même le plus grand auto-éditeur, on va dire, à ce niveau-là. Parce que l'outil qui est mis en place par Amazon gratuitement pour les auteurs est quand même très puissant.
Oui, toutes les éditions se valent. Hein. On n'est plus à l'époque où on faisait la différence entre auto-édition et pas auto-édition. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a d'excellents livres auto-édités, qu'il y a même des auteurs qui ont été édités parfois par de grands éditeurs et qui reprennent en fait la notion d'auto-édition, disant ben, qu'ils sont responsables du livre de A à Z. J'ai tendance à penser même que pour réussir en auto-édition, il faut être très, très polyvalent, être très minutieux sur les corrections, parce que en auto-édition, le lecteur ne fait pas de cadeaux.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc. Oui, la correction me prend pas mal de temps. Et heureusement, j'ai des amis qui sont professeurs de lettres qui m'aident à ce niveau-là. Et ma première lectrice est évidemment ma compagne qui me donne des conseils en tant que lectrice.
Le regard de l'autre, c'est quand même essentiel.
Essentiel, oui, tout à fait. Ouais.
Essentiel quand on publie. Nous arrivons presque au bout de l'émission, il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous aimeriez insister un peu plus ?
Sur un livre que j'ai écrit aussi, mais qui n'a rien à voir avec un polar historique, c'est... j'ai voulu écrire un livre sur des gens ordinaires qui ont traversé les deux guerres mondiales et pour qui il est arrivé des choses indépendantes de leur volonté, souvent parce qu'ils étaient là au mauvais moment ou au contraire au bon moment et qui ont vécu des choses et ou qui ont agi aussi sur l'avenir d'autres personnes. Donc, en fait, j'ai mis en scène quatre personnes qui sont, on va le dire, mes deux grands-pères, mon père et ma mère, et, qui ont vécu des choses que j'ai appris bien plus tard, parce qu'ils n'en ont jamais parlé. Ils n'aimaient pas parler de ces choses-là, parce que souvent, ils disaient que s'ils en parlaient, on ne les croirait pas.
C'est tout à votre honneur. Il y a une intelligence, il y a des souvenirs, il y a des manières de penser chez les gens. On dit des gens ordinaires, mais les vrais gens seraient peut-être une meilleure appellation. Et savoir leur donner la parole, C'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur à tous. Et je suis sûr qu'en travaillant là-dessus, eh bien, vous découvrez. Et il y a des trésors aussi dans leur vie.
Tout à fait. J'ai découvert des choses sur mon propre père que j'ignorais parce qu'il n'en avait jamais parlé. C'était pas des choses honteuses, hein, mais il n'avait pas jugé nécessaire. Il s'était dit que ça n'intéressera personne, donc voilà, il n'en parlait pas.
Des générations qui ont été très discrètes et qui restent très discrètes.
Oui. En plus, c'était des Normands, donc on dit toujours que les Normands sont taiseux. Donc, ça
n'arrange
rien.
Aujourd'hui, on est tous pareils, les blogs, l'envie de... J'allais dire presque l'envie de communiquer pour exister. Et à l'époque, beaucoup existaient sans avoir besoin ni envie en fait de communiquer, parce que ces gens-là taisaient des choses pensant que ça n'intéressait personne.
Tout à fait.
Et ça, c'est donc un sujet sur lequel vous travaillez actuellement.
Non, j'ai terminé de travailler, ce livre-là est paru aussi, il s'appelle « Les guerres ordinaires de nos pères ».
Les guerres ordinaires de nos pères.
Voilà, j'ai voulu faire une petite allitération.
Vous l'aviez fait déjà avec la mère.
Oui, c'est vrai, oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les titres de vos ouvrages pour terminer cette émission?
Alors, les trois polars historiques s'appellent « Au nom de la mère et du fils », le second « Le temple de Sorge », le troisième c'est « Les gars bleus », et le livre qui n'est pas un polar mais qui est plutôt un livre témoignage s'appelle « Les guerres ordinaires de nos pères ».
Où peut-on les trouver?
Chez Bookelis. Dans les librairies indépendantes, mais sur commande, et sinon sur Amazon.
Sur Amazon, sur Bookilis. Voilà. Eh bien, là, nous arrivons au terme de l'émission. Il me reste à vous remercier au nom de tous nos auditeurs de Bretagne 5. Vous nous avez permis de mieux vous connaître, de mieux connaître vos ouvrages. C'était Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Il était avec nous Gilles Houdouin.
Et c'est moi qui vous remercie.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.